RMC.
Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts, morts.
C'est très important, la concurrence. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est meilleur.
Monsieur, vous êtes un con.
After Paris.
Nicolas Jamin.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast After Paris avec cette semaine à mes côtés Roland Courbis. Salut coach.
Salut les amis et salut à tous.
Et Jimmy Brown, salut Jimmy.
Salut Nico, salut Roland, bonjour à tous.
Paris qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Trois ans après, le PSG aura son rond de serviette à la table du grand 8 européen de la C1. On va décrypter cette victoire face à la Real Sociedad ce mardi soir de buts à 1. On va évaluer ensemble les performances individuelles des joueurs parisiens, mais aussi, et je sais que tu vas en parler mon cher coach, la performance individuelle de Luis Enrique. Ses choix ont-ils été payants? A-t-il été inspiré? A-t-il eu de la chance? A-t-il su piquer Kylian Mbappé? A-t-il voulu piquer Mbappé, auquel cas il aurait eu raison? On va en débattre, on va en parler. Si vous écoutez le podcast After Paris, c'est parti. Alors messieurs, on va remonter le terrain pour faire notre évaluation complète de ce succès en terre basque de Buzyn du PSG. Du gardien jusqu'à Kylian Mbappé. Tiens, on va commencer par Donnarumma, coach et Jimmy, hein, clairement dans sa meilleure période depuis son arrivée au PSG à l'été 2021.
Ah, j'ai pensé qu'on démarrait par le tirage au sort qu'avait donné la Real Sociedad.
Ah là là, ça y est.
Premier match à Paris, deuxième match à la Real Sociedad, et que donc c'était la suite d'un parcours qui est un parcours qui ressemble à la Côte d'Ivoire.
Oui.
Mais bon. La qualification à la dernière minute dans la poule.
Donc oui, mais tu finis deuxième. La Côte d'Ivoire est terminée troisième et meilleure troisième.
Tu finis deuxième par miracle. Et en finissant deuxième, tu rencontres l'équipe que nous avons vue hier. Ça, c'est quand tu termines deuxième. Ça, c'est une équipe qui a été première d'un groupe. Ben, ça ne devait pas être la même. Mais bon, on ne va pas enlever et minimiser.
C'est ce que tu fais.
Mais non, mais pourquoi pour pas être déçu, j'essaie quand même de calmer un petit peu tout le monde en attendant le tirage au sort. Et si le tirage au sort ressemble à celui de la Côte d'Ivoire ou celui de l'Inter la saison dernière, ben moi je maintiens que le Paris Saint-Germain, dans cette année soi-disant de transition, peut aller au bout.
Roland, voilà. Personne ne s'enflamme, mais la réalité, c'est que le PSG va retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions et dans un stade plein pour la première fois depuis Manchester City en 2016. Ça faisait 8 ans que les supporters parisiens n'avaient pas vécu
c'est
un
ça.
Quart de finale au
c'est
Parc
ce
des
plaisir
Princes.
De retrouver
Donc
ce rendez-vous.
Déjà, c'est un petit événement.
Tous ceux qui nous écoutent sont lucides, ils savent très bien l'adversaire que le PSG a affronté.
Les supporters, pas ceux qui ont dit vivement le 30 juin. Non, ça, c'est pas des supporters, ça.
Non mais ça c'est un autre, on va pas faire le débat sur Kylian Mbappé.
Non mais c'est pas
l'enjeu.
Mbappé, on va en parler quand même. On va en parler quand même. Mais je veux quand même qu'on se concentre sur ce match-là, avec effectivement toute la mesure et la lucidité qui accompagne notre analyse compte tenu de l'adversité du 7e de Liga, d'une équipe qui n'est plus la même. Je parle de forme, état de forme, que celle qui avait terminé première de son groupe avec l'Inter notamment dans sa phase de poule. Oui, mais bon, ok. Ça on l'a dit en avant-match, on l'a dit pendant le match, on le dit aussi après. Je veux qu'on parle des individualités parisiennes quand même. Le coach, le gardien coach, Donnarumma. Je disais clairement dans la meilleure période de sa carrière au PSG depuis 2021.
Là depuis plusieurs.
Comment tu qualifies son match là hier?
Depuis plusieurs semaines, je le trouve exceptionnel. Le match d'hier, il a un petit peu moins eu de boulot que certains matchs,
arrêts, ouais.
Certains matchs où je lui ai vu faire des 5-6 arrêts, je dirais d'arrêts, pas d'une équipe qui démarre, qui disons maîtrise son sujet, d'une équipe moyenne avec un gardien de but, mais qui te sauve plusieurs points. C'est le Donnarumma, et tant mieux pour le Paris Saint-Germain, parce que les occasions, les adversaires du Paris Saint-Germain, ils en ont quand même beaucoup, oui. Je dirais même un peu trop.
5 arrêts contre la Real Sociedad, il est mieux dans son jeu au pied, je trouve aussi.
Il en sort une simplifié. La fin quand même. Il a un arrêt réflexe à 10 minutes de la fin sur sa ligne. Bon, après le match était quasi joué, mais quand même. Et sur le jeu au pied, il est très bon, je suis d'accord avec toi. Enfin, très bon.
Il prend moins de risques en fait.
Une fois voilà. Hier, il a quand même tenté quelques sorties de balles avec Nuno Mendes, à relancer un petit peu long, etc. Sur Mbappé notamment une ou deux fois. Il y en a une où il est mis en difficulté et ses vieux démons sont réapparus quand Mukiele le met en difficulté, mais Mukiele lui envoie une saucisse qui d'ailleurs lui a pas fait une bonne entrée du tout. Mais hormis celle-ci, franchement, j'ai trouvé serein tant dans le jeu sur la ligne, dans les sorties.
Et c'est pas la première fois.
C'est un bon Donnarumma. Et Paris aura besoin d'un très bon Donnarumma pour aller loin dans la compétition, ça c'est sûr.
31 matchs, 14 clean sheets cette saison, 21 buts encaissés. Alors selon le logiciel très complet Wyscout, il est actuellement le gardien le plus décisif sur la ligne, sur sa ligne dans les 5 grands championnats européens. Donnarumma, voilà. Bon, il est clairement, on a retrouvé le Donnarumma de l'Euro 2021 dont il avait été notamment nommé.
Les meilleurs joueurs de Paris Saint-Germain, je tiens à dire, c'est Donnarumma et Mbappé.
Mbappé, justement, d'accord. On commence par Donnarumma, on finira tout à l'heure par Kylian Mbappé.
Les deux postes décisifs.
Mais c'est pas toi, Roland, qui dit toujours que si tu veux gagner une compétition, il faut avoir un très bon gardien et un très bon attaquant.
Ça, c'est sûr.
Bah, tu les as, c'est déjà pas mal.
Ça, c'est sûr.
La défense, la charnière, Lucas Hernandez, axe droit, Lucas Beraldo, axe gauche. Beraldo, d'abord, pour commencer, mais les amis, clairement plus à l'aise en défense centrale que latéral gauche. Hein. Je crois que là, il n'y a pas photo.
Incontestablement, moi, j'ai été vraiment agréablement surpris par sa performance. Alors, encore une fois, il faut mettre des réserves.
On l'a dit.
Il n'y avait pas une adversité de dingue, mais ça fait plaisir d'avoir un défenseur qui a un pied, qui est capable de relancer, qui est capable de trouver des décalages.
Si on veut faire
le deuxième but, il part de Beraldo quand même.
Si on veut faire les comparaisons sans regarder l'adversaire, c'est pas la faute à Beraldo si un huitième de finale se joue contre une équipe moyenne qui n'a plus rien à voir avec l'équipe qui a fini première de son groupe. Bon, les blessures, les méformes, les joueurs qui sont partis, qui sont revenus, enfin bref. Donc ce Beraldo, si on fait la comparaison, on peut la comparer avec Skriniar. Ben je le trouve meilleur. Donc
balle au pied, il y a un moment.
Il va peut-être pas.
Sur quel point
il va peut-être pas
la relance.
Il est à l'aise techniquement. Il sent les coups pour intercepter. Il couvre bien son côté. En plus de ça, bon, des échos qu'on a, c'est un gars qui est assez attachant.
Heureux d'être là, t'as donc, vu le sourire qu'il a sur la ligne de Ligue des Champions. Heureux d'être ici.
Après. Il est associé à un autre gaucher,
Alors,
ce qui est pour moi une anomalie. Donc pour faire ça, il faut vraiment que tu aies rien d'autre de possible. Et Hernandez se démerde pas mal dans son match à droite. Et ensuite, la surprise sur les quatre défenseurs, pour moi, bon, le moins bon, ou plutôt le plus mauvais, mais je préfère dire le moins bon,
c'est Hakimi,
que je comprends vraiment pas ce qu'il fait. Je ne sais même pas s'il était au courant qu'il avait un carton jaune quand il prend.
Mais il a tout raté, carton jaune. Il prend le jaune avant la fin de la première.
Et par contre, alors là, pour en revenir à Luis Enrique, pour titulariser dans un match aussi important, parce que tu as gagné à 2-0 à l'aller, mais on est en huitième avec les souvenirs dans la tête, aide de beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain. Mendes a pratiquement un an sans jouer un match officiel. Je ne parle même pas d'un match de qualification de Champions League.
Il n'avait fait qu'une demi-heure le week-end dernier.
Je t'interromps, Roland, mais je crois que c'est la première fois sur un huitième de finale, tu parlais des souvenirs des joueurs, qu'il n'y a pas un joueur de la remontada qui est sur le terrain hier, sur le 11 de départ.
Ah, ça, j'ai pas fait gaffe.
T'en as pas un. Et tu vois, dans l'approche aussi mentale, quand on dit qu'il faut régénérer, parce qu'à un moment donné, quand t'as la lose, etc., Marquinhos est sur le banc, c'est un des rares qui est dans l'effectif qui était là en 2017. Là, voilà, on avait quelque chose de nouveau et ça a pas mal fonctionné.
Mais faire titulariser Mendes hier, sincèrement, j'aurais perdu un pari. Je ne pensais pas que ce soit possible, mais bon, chacun sa vision. Hein.
Après, tu as vu, il a tenu une heure, il l'a sorti au bout d'une heure.
Ouais. Donc quand je l'ai vu d'entrée être lobé par ce rebond au match de cette j'ai dit
clairement, problème.
C'est vrai qu'il retrouve, il retrouve un terrain de football dans un match officiel.
C'était pas le meilleur Nuno Mendes, incontestablement. Il a été en difficulté. Moi, j'ai trouvé que ça a été compliqué pour lui hier sur quelques interventions.
Quand on se rappelle de comme il est celui-là, quand il est en
forme. Oui, il faudra être patient avec lui.
Il est très fort.
Et ce qui est paradoxal, Roland, moi, je le notais hier, tu parlais des deux gauchers. Moi, depuis Silva Armand et Mamadou Sakho au PSG, on n'avait pas vu deux gauchers alignés ensemble en défense centrale. Hier, Beraldo, je l'ai senti moins à l'aise à partir du moment où Mukiele est rentré. C'est-à-dire que ça se passait très bien, le PSG n'était pas en danger quand tu étais sur la charnière Lucas Hernandez-Beraldo. Quand Mukiele rentre, que Lucas Hernandez passe côté gauche, justement à la sortie de Nuno Mendes, j'ai trouvé que le PSG était plus en difficulté.
C'est vrai, ce qui d'ailleurs n'est pas logique, mais tu ne trouves pas aussi que dans ces 20 dernières minutes, cette équipe de Real Sociedad n'était plus la même du tout. Ouais. Ils étaient plus vifs, ils harcelaient, machin, etc. Ouais. Et donc, voilà, mais jusqu'à cette période-là, je les ai trouvés vraiment très moyens.
Très moyens. Juste ton avis également sur Lucas Hernandez, mon cher Jimmy. Première fois titulaire en Ligue des Champions dans l'axe de la défense du PSG.
Moi, je l'ai trouvé très bon. J'ai trouvé franchement...
pour vous, ça s'impose. Il n'y a pas de débat.
Dans une zone...
Il doit être axial. C'est un des deux.
Dans une zone qui n'est pas la sienne.
En plus.
Mais moi, Roland, je me suis toujours interrogé sur le fait qu'on s'interroge toujours quand il y a deux gauchers, alors qu'il y a beaucoup de charnières avec deux droitiers, par exemple.
Oui.
Et pourquoi on ne pourrait pas mettre deux gauchers, là, on peut mettre deux droitiers?
Mais parce que la nature est telle qu'elle a fait un gaucher beaucoup plus gaucher que ce qu'un droitier peut être droitier. Donc quand tu es gaucher, tu es plus à droite de ton pied gauche qu'un droitier de son pied droit, mais tu es moins bon de ton pied droit. Moins bon de ton pied droit que le droitier de son pied gauche.
Voilà pour la défense du PSG, le milieu de terrain, les amis. Tiens, commençons par Warren, Zaire et Emery. Comment vous jugez son match, Jimmy?
Très bon.
Au coach.
Oui, très bon match. Il est toujours mal fait. Bah,
je l'ai rarement vu mauvais.
C'est exactement ce que j'allais dire. Franchement, toujours là où il faut. Physiquement, tu sens qu'il pique jamais du nez. Il est toujours là, présent. Techniquement, il est juste.
Il est costaud. Athlétique.
Ouais. Non, franchement, moi je trouve.
C'est valeur sûre. Hein. Tu réfléchis même pas avant de faire ta compo de toute façon. Tom-là est indéboulonnable désormais au PSG.
Un taulier qui va fêter ses 18 ans là.
Ouais, ça c'est dingue.
C'est incroyable aussi.
Bon, on espère qu'il va prolonger. Vitinha.
Mais pas mal aussi. Maintenant, et en plus de ça, bon, ça, chacun ses goûts. Moi, je trouve que ce milieu de Paris qui est critiqué, bah écoute, je vois qu'il y a pire. Donc, quand tu as Vitinha qui peut jouer 6, 8, voire même 10, qui est un peu polyvalent et qui se permet même d'être une bonne sentinelle avec des qualités techniques, c'est pas le profil d'Ougarté. Moi, Ougarté, il me plaît bien, mais chacun ses goûts. Et quand je vois ces joueurs-là au Paris Saint-Germain avec Lee, avec Asensio, Ruiz, Soler, je trouve vraiment très, très moyen. Mais ça va, c'est loin d'être catastrophique. Je pense même au hasard, Ougarté, Vitinha et Zaïre Emery, dans trois milieux. Alors après, tu peux en rajouter un quatrième avec un attaquant de moins. Et Asensio, tiens, bah, j'ai déjà vu pire, hein, même en Champions League.
Moi, j'ai une limite sur Fabian Ruiz que je n'ai pas trouvé très bon. Et pour te répondre sur le profil, je pense que dans le jeu de Luis Enrique, en fait, Ugarte perd trop de ballons. Il a besoin d'un numéro 6, d'une sentinelle qui est technique, qui sait tenir la balle.
Il en récupère
beaucoup, ouf, c'est sûr. Mais voilà, Vitinha, il a une sûreté technique. Alors après, moi, je trouve que, particulièrement, tu parlais de l'adversaire et de l'adversité, etc., elle se juge sur son poste à lui. Ouais. Ta performance, elle dépend beaucoup de l'adversité. Moi, j'ai envie de voir Vitinha faire un gros match contre une très grosse équipe.
D'accord.
Alors, que je n'ai pas encore vu.
Je ne vais pas te poser une question piège, mais c'est une question où je vais moi-même donner la réponse. Je rencontre, et je suis entraîneur de Paris Saint-Germain, Manchester City. Eh bien, je pense que je vais jouer ma carte à fond. Ma carte à fond, je vais la jouer avec Ugarte.
Bien sûr.
Je ne vais pas la jouer avec Vitinha.
Avec Vitinha,
à ce poste, voilà.
Pour le Vitinha, combat.
Pour récupérer les ballons, pour empêcher de trouver les deux monstres qu'il y a derrière et pour faciliter le mécanisme des deux arrières centraux du Paris Saint-Germain. Donc, bim, les termes à la mode dans notre époque, je dirais plutôt dans votre époque, puis vous êtes plus jeune que moi, c'est sentinelle. Mais sentinelle, pour moi, Ugarte contre Manchester City.
Mais là, en l'occurrence, je pense que le positionnement de Vitinha, d'ailleurs, on le voit sur les 4 mi-temps de la double confrontation entre la Real Sociedad et le PSG, la seule période où le PSG était en difficulté, c'est la première période du match aller où c'est Fabian Ruiz qui occupe ce poste-là. Et à partir du moment où, en deuxième période, Vitinha numéro 6, t'arrives à sortir du pressing, t'arrives à sortir les ballons et t'es beaucoup plus à l'aise, en fait. Et c'est ce qu'on a vu hier. Encore une fois, le deuxième but parisien, c'est un modèle. Et Vitinha, la remise pour Kangini qui renvoie Mbappé derrière.
Simple, efficace, rapidité. Voilà pour les milieux de terrain.
On peut rajouter un quatrième milieu de terrain, parce que Dembélé, il a joué à ce poste-là quand même.
Alors, Dembélé, justement, j'y allais. Dembélé, poste étonnant, voilà. Il joue en 10. On sait qu'il est polyvalent, il peut jouer à droite, à gauche, dans l'axe.
Une invention de l'inventeur, c'est pas un pléonasme.
Et alors ? Alors certes, il y a pas mal de déchets, comme souvent, mais il a déstabilisé énormément ses adversaires directs. Comment tu as jugé son match ? Comment tu juges son match, coach ?
Mais si tu veux, on ne peut pas voir deux matchs. Ce que j'ai vu dans ce match-là, c'est un Dembélé à côté complètement de ses habitudes. J'ai vu un Barcola que tout le monde est au courant depuis qu'il est tout petit, qu'il est nettement meilleur à gauche qu'à droite. Hier, il n'y en a eu que la confirmation. Et voir Dembélé dans un rôle où il va gêner le numéro 6 adverse, mais pourquoi pas ? C'est une astuce d'un entraîneur, mais tu n'as plus le Dembélé. Quand je vois le niveau de l'équipe et des défenseurs, quand je vois le mécanisme des défenseurs de l'adversaire de Paris Saint-Germain hier, la Real Sociedad, avec ces deux joueurs moyens, qu'il n'y en a pas un qui aurait l'intelligence de sortir sur Mbappé avec un autre qui couvre, de voir aucun mécanisme. Et bien maintenant, que ce soit une réussite, que Dembélé gêne le numéro 6 adverse, que c'est un bon joueur, ben pourquoi pas
À partir du moment où tu as
deux gauchers, tu as Mendes, deux gauchers récentes, tu as Mendes qui est titularisé un an après sans avoir joué un match officiel, tu as Dembélé qui n'est pas à son poste, Barcola qui n'est pas à son poste, et Mbappé qui retrouve son poste, on l'a gardé pour la fin. Eh bien, bravo Paris Saint-Germain.
Bravo Luis Enrique, parce qu'il est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions.
Mais c'est magnifique.
Donc bravo. Je précise également qu'il a fait un énorme boulot défensif, au-delà de gêner le 6 adverse. Il est venu compenser, il est venu aider Nuno Mendes.
C'est ça.
À gauche. Hein.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, paradoxalement, tu retiendras plus la prestation défensive d'Ousmane Dembélé que son apport offensif sur le match d'hier. Après, là où je rejoins Roland, c'est que Dembélé, tu l'attends quand même pour faire la différence offensivement, etc. Alors, il a tenté un coup hier, ça a fonctionné, puisque, encore une fois, la logique, c'était de verrouiller ce milieu de terrain au maximum, de les étouffer, de ne pas les laisser jouer, pour se sortir de cette, pour s'éviter, en fait, une forme de pression, etc. Il faut rappeler aussi, quand même, Roland, tu le disais en introduction, psychologiquement, la chape de plomb qu'il y avait au-dessus de la tête des Parisiens, quand même. Il y avait. Luis Enrique, il a fait en sorte de les mettre en confiance, d'essayer au maximum de rassurer tout le monde, et le positionnement de Dembélé a participé à ça. Pour autant,
je
il a
pas que ce soit pérenne, hein, pour le coup.
Non,
on en parlait tout à l'heure, Jimmy. Asensio peut remplir ce rôle-là.
Moi, je pense qu'à terme, le PSG va finir avec Asensio dans le rôle de Dembélé hier, et que Dembélé va jouer devant avec Mbappé, qui s'est rendu compte que Luis Enrique, finalement, qu'il a deux flèches.
Malheureusement, il fait partie d'une longue liste de joueurs.
De blessés chroniques.
Citer que l'entraîneur c'est le kiné. Hein.
Oui, tout à fait.
Oui, mais il a le temps de revenir d'ici le quart d'heure.
Barcola, ça pose question aussi. Il enchaîne les matchs moyens, voire pires. 9 ballons touchés hier seulement. Il sort à la mi-temps.
Surtout pas à droite.
Il n'est pas allé en tribune. Hein. Comment ?
Surtout pas à droite.
Et même à gauche en ce moment, il n'est pas.
Ah non, il jouait à droite, Roland.
Mais oui, mais c'était pas la bonne chose. On en faisait des débats. Mais à Lyon, il joue à droite et à gauche. Et chaque fois avec notre Edouard G. Ben lui, tu demanderas, mais il est nettement meilleur. Mais tout le monde, les éducateurs qui l'ont formé, les formateurs, te disent qu'il est nettement meilleur à gauche qu'à droite.
Après, s'il faut laisser la place à Kylian à gauche, tu vas à droite ou tu vas sur le banc.
Oui.
Mais oui, écoute.
Et Dembélé qui reviendra à droite.
Voilà, et puis bon, l'année prochaine, tu la prépareras en championnat, pas en Champions League.
Voilà.
C'est ce qu'il fait, non ?
Ben oui.
On a parlé de Barcola, il y a un homme qui l'a suppléé dès la 46e, dès le début de la deuxième période, c'est Kang In-Lee. Qui, bon, auteur d'une passe décisive, hein, certes, hein, c'est bien. Qu'est-ce que tu retiens également de ces 49 minutes passées sur le terrain ?
Ben c'est un
Qu'est-ce
joueur...
Qu'est-ce que tu penses de ce joueur d'ailleurs, toi ?
Ben, si tu veux, dans l'époque, c'est souvent une phrase, l'époque dans laquelle on vit,
oui.
Avec 5 changements... Je trouve que c'est très intéressant de l'avoir sur le banc. Il est capable de faire des choses de joueur talentueux.
Des propres aussi parfois.
Techniquement, ouais. des bonnes dernières passes, mais des avant-dernières passes aussi. Et qu'est-ce que c'est son véritable poste ? Un genre de 8,5, quoi. Peut-être pas un meneur de jeu numéro 10, mais un milieu offensif. Et c'est vrai que si tu as Asensio en forme et Lee en forme... Et que tu es dans une situation où tu dois construire ta victoire, ben
et ta rotation.
C'est sûr que ce sont des joueurs intéressants.
Kylian Mbappé pour finir, promis, 45e, 46e but en Ligue des Champions. Il a retrouvé son poste, sa zone de prédilection préférée à gauche. Jimmy, qu'est-ce qu'on peut dire en réalité ? Cet homme-là est monstrueux, cet homme-là est phénoménal. C'est aussi et surtout sa qualification à lui.
tremble Vinicius, Mbappé arrive.
Exceptionnel, non mais voilà, au niveau on l'attend et je pense pour pas mal de supporters parisiens, son attitude à la mi-temps du match contre Monaco, il avait des choses à se faire pardonner. Kylian Mbappé, il a répondu sur le terrain, il a été comme on l'attend et franchement, lui a été dans son rôle de finisseur, mais autant. On va pas se mentir, le premier but, il se le fait un peu tout seul quand même.
Ah oui,
Dembélé, il arrive à faire une différence, mais Mbappé, quand il démarre comme ça, qu'il se met à crocheter, etc. Le deuxième, il est un peu plus classique. Moi, je retiendrai l'action collective du deuxième but qui va réconcilier en fait à la fois Luis Enrique et Kylian Mbappé. C'est-à-dire que les deux ont gagné hier soir. Voilà, on n'arrête pas de vouloir ensemble les mettre en opposition. Après le match, Mbappé a dit « Moi, j'ai aucun problème avec mon entraîneur ». Luis Enrique, de l'autre côté, a dit « c'est les médias, je cite, qui cherchent la merde. Moi, j'ai aucun problème avec aucun de mes joueurs ».
Il a provoqué aussi.
Que ça dure, voilà, que ça dure. On le savait, moi, je veux dire, je l'ai répété avant, on en parle souvent dans la rédaction. Évidemment que sur un match contre de Ligue des Champions, il n'allait pas le traiter de la même manière qu'il a pu le gérer en championnat. Luis Enrique, il a championnat gagné. Il sait que la Ligue 1, elle est gagnée. Il tente des choses, etc. en Ligue des Champions. Il sait qu'il a besoin de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé lui rend sur le terrain. Hier, il fait un super match. Voilà, rien à dire sur Kylian Mbappé.
Rien à rajouter, coach, là-dessus?
Oui, mais disons que bon, je suis pas d'accord, pas du tout. Je suis pas d'accord en partie avec cette gestion, puisque pour moi, un Mbappé, ça reste un Mbappé. Le nombre de fois que Mbappé, sur les 7-8 dernières années, il a sauvé son équipe, que ce soit celle de Monaco ou celle de PSG. Paris, du PSG, dans le dernier quart d'heure. Donc, c'est pas monsieur tout le monde, c'est pas le joueur traditionnel. Mbappé, il te fait une première mi-temps moyenne, il peut te faire gagner dans les 5 dernières minutes de la deuxième mi-temps.
Bon. Oui, mais ce que je veux te dire, Roland, c'est qu'en championnat, t'as pas forcément besoin de lui pour être champion, c'est ça que je veux te dire.
Ouais, mais t'as pas besoin de l'emmerder chez lui à Monaco, de lui donner le brassard de capitaine et de le sortir à la mi-temps parce qu'il fait une mi-temps moyenne.
Et inversement, il a pas besoin de se mettre en scène aussi.
Mais justement, voilà. T'as qu'à pas le sortir. Il est à Monaco. Il y a un minimum d'obligations. Si c'est pour montrer que c'est toi qui commandes, mais ça va, on a compris que c'est toi qui commandes. Oh là là.
La réconciliation, elle a eu lieu sur le terrain hier et c'est tout ce que pouvaient espérer de mieux les supporters du PSG. Écoute,
voilà pour le podcast After Paris.
Que ça continue dans l'intérêt du Paris Saint-Germain et du football français.
Spécial Ligue des Champions, PSG Reims, bien sûr, dimanche 13h. On sera là ensemble la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'After Paris. Merci coach, merci Jimmy.
Merci à vous, les gars.
Bonne fin de semaine à tous. À très vite.
RMC After Paris.